Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes quelques jours de la fête de Pourim. Pourim, c'est une grande fête. C'est pas, bien sûr, c'est pas une fête qu'on la trouve dans la Torah. C'est une fête plus tardive, comme on va voir tout de suite. Et pourtant, c'est une très grande fête. La joie est beaucoup plus grande que les autres fêtes. On a des devoirs qui sont liés avec les joies qui dépasse à tel point qu'on dit que, bien, il y a les jours de Pourim lui-même, mais à un moment donné dans Pourim, il manquait qu'il faut boire jusqu'à le moment où on ne voit pas les différences entre Aman et Mordechai. Il faut expliquer ça, peut-être pas aujourd'hui, mais ça, juste pour dire, bien sûr que tout ce qu'on nous demande, tout ce qu'il y a dans le judaïsme, c'est très profond. C'est pas, on ne le prend pas à la légère, c'est très très profond, c'est très intellectuel, et il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette idée de boire jusqu'à le moment où on ne connaît pas les différences entre tel et tel, entre le mal et le bien. Et il y a beaucoup de commentaires, parmi les commentaires intéressants, mais on ne va pas rentrer là dans ce sujet, il me semble que les années précédentes on a parlé un petit peu de ça. Juste ce qui est intéressant, que en hébreu, les lettres font aussi le chiffre, comme la lettre Aleph, ça correspond au chiffre 1. Donc, selon ça, la lettre Yud correspond au chiffre 10. Et la lettre Chaf correspond à la lettre 20. Etc, etc, etc. La lettre Kuf correspond à la lettre au chiffre 100. Et on arrive jusqu'à Taf, qui correspond à la lettre 400. Et ensuite, pour faire d'autres chiffres, il faut faire 1, par exemple si j'ai 100, je peux faire 1, la lettre 1 pour dire 1000, et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit, taf c'est le 400, 1400, etc., etc. Donc alors, puisque c'est des chiffres, il y a, si on calcule les lettres donc de Arur Aman, parce que c'est vrai que le jour de Pourim, il faut faire bien la différence entre les biens et mauvais. Les mauvais correspond avec le mot Arur Aman, mauvais ou bien maudit, soit Aman, celui qui voulait tuer, détruire. Baruch Mordechai correspond à cette idée de béni soit Mordechai, celui qui était finalement, grâce à lui, le sauvetage est arrivé. Donc on a deux personnages qui là représentent le mal absolu et l'autre qui représente le bien absolu. Et normalement, il faut savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans l'éducation, il faut dire que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Et quelque part, c'est ça un petit peu l'esprit de Pourim, à savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais à la fin de Pourim, on nous dit qu'il faut boire. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, même si ça choque. Mais il est marqué comme ça, qu'il faut boire à tel point de ne pas connaître les différences entre Modi soit Aman et Beni soit Mordechai. D'une façon générale, il ne faut pas faire connaître les différences entre mauvais et bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque notre vie est construite sur les notions des différences entre bien et mal. Chacun il va dire ça c'est bon, donc tu le fais, ça c'est mauvais, tu ne le fais pas. Chacun il dit comme ça à ses enfants. Ils veulent l'éloigner des mauvaises choses ou peut-être des mauvaises personnes. Ils veulent l'approcher vers de bonnes choses et de bonnes personnes. Et après, tous ces discours et tous ces apprentissages, on lui dit, mais finalement, tout est bon. Il ne faut pas faire la différence entre bon et mauvais, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est très profond. Il y a beaucoup d'explications. Mais parmi les choses, justement, je ne vais peut-être pas rentrer dans l'explication, même si elles sont magnifiques, mais parmi les choses merveilleuses qu'il y a ici dans ces notions, comme on a dit tout à l'heure, qu'au niveau des chiffres, il y a Donc le chiffre 1, Arour, Aman, donc si vous déchiffrez, si vous traduisez ces mots Arour, Aman, mauvais soit Aman, maudit soit Aman, si vous traduisez ça en chiffres, vous arrivez au chiffre 502. Et lorsque vous traduisez le chiffre Baruch Mordechai, béni soit Mordechai, vous allez arriver au même chiffre, 502. C'est intéressant. On a du mal à le faire comme ça en ligne, mais celui qui connaît, qu'il fasse le calcul, il va voir que c'est le même calcul. Donc, les mauvais et les bien, finalement, c'est la même chose. Ça veut dire quoi que c'est la même chose? Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer, juste lancer l'idée. C'est quelque part, il faut, parmi les explications qu'il faut savoir après qu'on a bien fait la différence entre le bien et le mal, il faut avoir une connaissance plus profonde que même le mal, il a un but. Ça veut dire qu'il ne faut pas accepter le mal. Mais une fois que le mal est là, il faut savoir qu'il faut utiliser le mal pour le bien. Encore, ça c'est juste pour dire, pour ne pas rentrer dans les détails. Pour rentrer dans les détails, il y a beaucoup d'explications très intéressantes, surtout dans la Chassidoute. Donc alors finalement, et il y a beaucoup de choses dans cette fête qui est magnifique, qui est très étonnante. Et donc la fête de Purim, c'est parmi les fêtes les plus joyeuses. Et même, on peut dire que c'est la fête la plus joyeuse et de tous les autres fêtes. Et pourtant, c'est une fête tardive. C'est pas comme la fête des les autres fêtes on les trouve dans la Torah ou bien on les trouve un petit peu plus tard. Mais la fête de Purim, c'est passé beaucoup plus tard. Et pourtant, il dépasse quelque part les autres fêtes. Et on dit aussi quelque chose d'intéressant, que quand le Messie va venir, donc le Mashiach va venir, toutes les autres fêtes, ils vont être annulés, sauf celle de Purim. Et la Chassidoute explique que ça veut dire que toutes les autres fêtes, ils vont être annulés, la Torah est éternelle. Alors même si qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre comment, lorsqu'on va arriver à cette période magnifique, on aura besoin encore de fêter telle et telle fête, mais quand même, il y a des explications comment, finalement, ça va être nécessaire, même dans cette période magnifique. Mais on nous dit qu'après tout, puisqu'on va être dans des périodes de fête après le Messie, alors à ce moment-là, la fête de Pessah, par exemple, qui est une fête qui ne va pas être annulée, mais elle va perdre un petit peu de sa chaleur, parce qu'on va être toujours dans la fête. Mais par contre, celle de Purim, elle ne va pas perdre de sa valeur. Là aussi, ça a besoin d'une explication. Mais quand même, ça montre comment la fête de Purim est considérée dans le judaïsme comme une fête très très forte, etc. D'autres choses qu'on voit que quelque part, la fête de Purim, même si c'est une fête tardive, et même si c'est une fête qui, quelque part, pas comme les autres grandes fêtes, qu'à ce moment-là, le monde s'arrête, on ne va pas en travail, on ne prend pas la voiture, etc., etc. Mais la fête de Purim, c'est une fête, quelque part, on ne change pas, ça veut dire que tout ce qui est interdit dans la fête ne sont pas interdits, c'est comme une fête donne la semaine. Ça veut dire une fête, c'est pas comme un Shabbat et pas comme les autres fêtes. On fait tout ce qu'on fait, en tout cas presque, tout ce qu'on fait la semaine, et pourtant c'est une fête. Alors, la fête est donc, la fête est accompagnée par un livre. Donc il y a un livre qui s'appelle le Rouleau d'Esther, Megillat Esther. Et Megillat Esther, on la trouve dans la Bible, c'est parmi les 24 livres dans la Bible. Seulement que c'est parmi les derniers livres quand même, parce que les premiers 5 livres de Moshe, donc c'est le livre de la Torah. Et ensuite, on trouve les prophètes. Dans les prophètes, il y a des différentes périodes, mais normalement, ça dure à peu près 800-900 ans, même 1000 ans. Ça veut dire qu'il y a des prophètes qui ils ont fait leur prophétie pendant les périodes des différentes périodes jusqu'à la période des rois d'Israël. Et ensuite, après l'exil de Babylone, qui était au bout de 800 quelques années la sortie de l'Égypte. Et même après, il y avait des prophètes importants. Et ensuite, à la fin de cette période d'exil, à la fin des 70 ans d'exil, et c'est d'ailleurs ces 70 ans, le calcul de différentes manières, il y a dans le Talmud comment on le calcule, à la fin de cette période, il y avait l'histoire des Pourim qui se passait pas en Israël, mais parce qu'ils ont été déjà en exil depuis 70 ans, mais se passait donc dans cette région des Perses, un petit peu l'Iran d'aujourd'hui. Et c'est là où il y avait Aman qui voulait exterminer le peuple juif avec les détails qu'il y a dans la Megillah, donc ce livre, et comment finalement ils ont arrivé à ces victoires. Donc alors, la Megillah, on a l'habitude et l'obligation de la lire, donc cette année ça va tomber la semaine prochaine, les jours de lundi soir et mardi. On a l'habitude d'écouter la Megillah, donc l'histoire de la Megillah. Donc ce livre qui s'appelle Megillah, Megillat Esther, le rouleau d'Esther. On la lit le soir et ensuite on la lit le lendemain, de préférence le matin, mais il y a la possibilité de la lire toute la journée. Et ensuite, on passe vers les autres actes, parce que dans la fête de Pourim, on a plusieurs devoir, surtout au niveau amical. Ça veut dire que la fête de Pourim qui était censée par Aman de tuer tous les peuples juifs, donc on renforce nos liens, nos amitiés dans la communauté. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses à faire. Comme on a dit tout d'abord, il faut lire la Megillah et comprendre l'histoire. Et ensuite on passe vers l'acte. Donc l'acte c'est aider les pauvres. Normalement on cherche deux pauvres pour les aider. 16 jours, donc après, c'est les jours de mardi, c'est pas les soirs, on peut toujours et toujours se bien aider, mais ce devoir, les jours de Pourim, c'est le matin. Donc alors, le matin ou la journée de Pourim, donc on cherche des pauvres, deux pauvres pour les aider. Si on n'a pas de pauvres, alors on peut mettre dans une boîte ou dans quelque part, ce qu'on aimerait donner aux pauvres, et on donne à l'occasion. Aujourd'hui, on a d'autres manières de donner par carte bleue, et certainement vous allez être sollicité à droite et à gauche, mais en tout cas, ça c'est une des devoirs de Pourim. Un autre devoir de Pourim, c'est tout simplement qu'il faut donner un kedom, quelque chose qu'on peut manger, tout de suite, ça veut dire sans cuire. Et on peut manger, on peut profiter tout de suite, et donc on donne des cadeaux, de la nourriture, l'un à l'autre. Le minimum, c'est pour une personne, on donne deux mets, ça peut être une boisson, sauf l'eau, une boisson importante, et une nourriture importante, en fait une nourriture, en vérité, elle doit pas être... importante, mais en tout cas quelque chose qui a une certaine valeur. Donc la nourriture, ça peut être deux sortes de nourriture, ça peut être une pomme par exemple, une banane en fait. Mais on le fait. Mais dans la communauté juive et partout dans le monde, c'est une occupation de toute la journée quelque part. Toute la journée, les gens ils donnent à leurs amis, à leurs voisins, leur famille, et il y a même cette habitude que si j'ai tel et tel proche, alors aujourd'hui on passe en ligne, on achète, on demande qu'on amène à telle personne qui se trouve dans tel endroit. Donc la journée de Pourim est très marquée par ce qui s'appelle Mishloach Manot, donc de donner des cadeaux les uns pour les autres. Quelque part, c'est la période où on renforce l'amitié. Et c'est vrai que c'est assez difficile de le faire. Combien, si j'ai 1000 amis, est-ce que je vais donner à tous ces amis? Alors, il y a ces pratiques qu'on donne et on reçoit en même temps. Et donc, on a l'habitude de donner, par exemple, un plateau, un panier avec telle et telle chose. Celui qui reçoit, souvent, il donne la même chose à quelqu'un d'autre, donc finalement il fait tourner, soit il enlève, il rajoute, mais en tout cas, c'est une activité que dans la communauté juive autour du monde, on le fait toute la journée. Parfois, on le fait en avance, puisque je sais que je ne pourrais pas voir telle personne, donc je demande à quelqu'un de le faire pour moi, quelqu'un qui se trouve là-bas, etc., etc. Donc, alors, on a déjà vu trois devoirs qu'on a le jour de Purim. Et la première des devoirs, c'est, ça se répète deux fois, le soir de Purim, cette année, ça va être lundi 2 mars. Et le lendemain, on relit, donc il faut lire la Megillah, écouter la Megillah, il faut écouter l'histoire de la Megillah à partir d'un Par Shema. Et d'ailleurs, en Bourgogne, on organise cette lecture dans les différents endroits, déjà à Dijon, dans la synagogue, dans le Beit Chabad, le soir, le lendemain, on a plusieurs possibilités. Si vous voulez savoir, téléphonez-nous. Et aussi, on organise, en fait, ça va être organisé par des bonnes personnes dans la ville de Nevers, dans la ville de Chalon-sur-Saône, dans la ville de Besançon, dans la ville de Auxerre, dans la ville de Chablis. Et donc, il y a plusieurs endroits où on le fait dans notre région de Bourgogne. Et bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres autour de la France, autour du monde, partout, il y a cette pratique. Donc, on revient à ce qu'on a dit. Il y a la lecture de la Megillah, le soir et le matin, et ensuite les devoirs des jours qui sont liés avec donner à deux pauvres des pièces ou bien des cadeaux, ce qu'ils peuvent utiliser, et Mishloach Manot, donc donner aux amis des cadeaux, mais des cadeaux qu'on peut manger, de la nourriture. Et ensuite, normalement, on le fait vers la fin de la journée, un grand festin de Purim. Il faut le faire avant le coucher du soleil. On peut commencer avant le coucher du soleil, continuer plus loin, plus tard. Mais il faut quand même manger quelque chose d'important avant le coucher du soleil. Donc ça, c'est un petit peu la fête de Purim. Et on dit comme ça, on dit dans cette Megillah, dans cette rouleau d'Esther, il y a cette phrase. Alors en vérité, il y a deux phrases. Tout d'abord, on va parler de cette phrase qui est marquée Ayamim ha'ele nizkarim ve'nasim. Ça veut dire qu'il faut rappeler ces jours et le faire. Ça veut dire qu'il faut rappeler l'histoire et ensuite faire le devoir des jours. Mais il y a une autre vision chassidique qui dit que lorsqu'on le fait, alors ça se refait. Puisque le problème de cette, malheureusement, le problème de ces sortes, de ces natures d'antisémitisme, on le voit encore. Donc, quelque part, la manière comment on lutte contre l'antisémitisme, il y en a beaucoup de manières, mais parmi les manières juives, c'est le fait même que je fais la fête de Purim. Comme je faites comme il faut, la fête de Purim, comme il est marqué dans la loi juive, je suis en train de lutter contre toute forme d'antisémitisme, que c'est justement le sujet de Purim. Ou bien, il y a d'autres explications. Il y a une idée, il est marqué aussi, une idée qui va dans ce sens. Dans les lois de Purim, il est marqué cette phrase qui est accourée à Megillah le mafré à l'Oyatza. Ça veut dire tout simplement que celui qui lit l'histoire de la Megillah pas dans l'ordre, il n'est pas acquitté. Donc il a lu de tout d'abord la fin, ensuite le début, il n'est pas acquitté, il doit recommencer depuis le début. Mais le Baal Shem Tov explique que celui qui lit la Megillah, et il pense qu'une histoire ancienne, ça ne nous concerne pas aujourd'hui, alors il n'a pas compris, il n'a pas acquitté, donc il n'a pas fait la fête, parce que le but de la fête, c'est comprendre comment voir. Comment tout ce fait, dans notre cas, c'est la fête de Purim, ça nous concerne aujourd'hui. Donc, alors, l'histoire, c'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps, il y a à peu près 2500 ans, et pourtant, c'est une histoire qui se répète. Maintenant, on va parler de quelques points selon le temps qu'il nous reste. Il y a. Comme on a dit tout à l'heure, que dans la Bible, ça c'est parmi les livres qui se trouvent à la fin de la Bible, parce qu'au niveau des périodes aussi, c'était vers la fin de la Bible. Après ça, c'est une autre période, mais la Bible s'arrête vers à peu près dans cette période de Pourim. Et pourtant, ça fait partie de l'histoire de Pourim, ça fait partie de la Bible. Mais il y a une différence, il y a une grande différence entre le reste de la Bible et cet rouleau d'Esther. Car la Bible, c'est un livre, si on peut dire, historique, peut-être, mais aussi, surtout, c'est un livre qui... Les livres qui parlent de Dieu, la présence de Dieu dans le monde, et comment Dieu, il a créé le monde, et comment Dieu, il manifeste dans le monde, dans les différentes périodes, etc., etc. Ça, c'est un petit peu la Bible. Mais dans l'histoire de Megillat Esther, donc c'est le rouleau d'Esther, il y a une histoire, et pourtant, on mentionne même pas une seule fois le nom de Dieu. Donc c'est quelque chose, on peut le prendre comme une belle histoire, que la religion, elle n'a rien à faire avec ça, ou Dieu, il n'a rien à faire avec ça. Et pourtant, ce n'est pas le but de la Bible. Le but de la Bible, c'est montrer que toute notre existence, toute notre histoire, même le plus banal possible, le plus éloigné possible de la religion quelque part, tout est dirigé par Dieu. Donc, alors, on devrait dire, on devrait montrer la divinité là-dedans. Et pourtant, dans ces livres, il n'est pas mentionné le nom de Dieu. Parmi les explications, ce qui était donné, c'est que, puisque ce livre, c'est vrai que c'est une histoire qui s'est passée chez nous, chez les Juifs, mais c'est quand même une histoire qui s'est passée dans le royaume perse. Et donc, eux aussi, ils ont utilisé ces livres. Et si nous, on va parler de Dieu, eux, ils vont parler de leur idole. Et puisque on n'a pas voulu faire cet échange, ça veut dire que nous, on va parler de Dieu, raconter les miracles de Dieu, et les autres, ils vont utiliser avec d'autres noms de leur divinité, donc on a enlevé carrément le nom de Dieu. Mais puisque tout dans la Torah est exact et profond, il n'y a pas de hasard, tout est exact. Alors, il y a une autre explication, l'explication suivante. Que justement, Dieu il manifeste là où on le voit, et Dieu il manifeste là où on ne le voit pas. Il se manifeste partout. Ça veut dire que, bien sûr, que quand on voit quelque chose que Dieu il a dit, que Dieu il a fait d'une façon claire, alors à ce moment-là, on voit la divinité d'une façon claire. Mais même dans une période, dans une situation où, soi-disant, Dieu n'est pas présent, il faut voir la présence de Dieu là où on a l'impression qu'il n'est pas présent. Et c'est ça le but de ces fêtes tardives. Quand on parle d'une fête tardive, c'est vrai au niveau du temps, mais c'est vrai aussi au niveau du niveau. Ça veut dire qu'il est tardif. Il y a une période où Dieu il était manifesté d'une façon beaucoup plus claire dans le monde depuis la création. Et petit à petit, il s'est manifesté moi. Mais il y a une période où on a l'impression qu'il n'est pas là, il n'est pas présent, pour une raison, pour une autre raison. Est-ce qu'il est vraiment, il n'est pas présent, il laisse faire les choses, etc. Et pourtant, notre rôle, c'est trouver Dieu là où il est caché. Et en grand, c'est d'ailleurs, la Chassidoute explique, comme on a dit tout à l'heure, que les livres de la Megillah, donc de ces livres d'Esther, ils s'appellent Megillat Esther. Et là, le rouleau, puisque c'était marqué, les livres de l'époque, c'était en forme de rouleau, donc c'était le rouleau d'Esther. Jusqu'à aujourd'hui, on fait attention à les lire depuis ce rouleau. Donc, c'est le livre d'Esther en forme de rouleau. Donc, alors, Megillat Esther, ça veut dire le rouleau d'Esther. Mais puisque tout est profond dans le judaïsme, on le voit de plusieurs manières, de manières encore plus profondes, encore plus profondes. Alors, on nous explique, et surtout la Chassidoute développe beaucoup cette idée, que Megillat vient aussi des mots hébraïques galoï, révélé. Et Esther, c'est un prénom, mais un prénom qui va dire quelque chose. Esther en hébreu, ça veut dire caché. Et d'ailleurs, la base de ce nom se trouve dans la Torah où Dieu il dit qu'à un moment donné, pour telle et telle raison, il va cacher sa face. Ça veut dire qu'il ne va pas manifester. Donc, alors, le nom Esther va dire caché. Le mot Megillah va dire révélé. Donc, si on les met ensemble, ces deux idées, on a une idée qui dit qu'il faut révéler ce qui est caché. Donc, notre rôle, c'est que même au moment où on a l'impression que tout est caché, surtout la divinité, la façon comment Dieu manifeste dans le monde est cachée, on ne comprend pas ce qu'il fait. Et pourtant, on peut réagir de deux manières, puisque je ne le vois pas, donc je ne le cherche pas, donc je laisse tomber, grâce au shalom, ou bien d'une autre manière, puisque je ne le trouve pas, il ne manifeste pas d'une façon claire, il laisse faire la nature, à tel point qu'on a l'impression que c'est la nature qui fait bien les choses. Comme on dit, le hasard fait bien les choses, ce qui est faux d'ailleurs. Alors, à ce moment-là, je ne vois pas ce qui est caché. Mais notre rôle, c'est que même au moment où les choses sont cachées, et même dans une situation où Dieu est caché, il faut révéler. Donc, alors, ça, c'est une fête qu'on a, on nous demande que même lorsque le nom de Dieu n'est pas là, c'est notre rôle de révéler ce qui est caché. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans l'histoire de la Megillah, il y a, on ne voit pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Tout est naturel. Ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la Megillah, il est arrivé telle et telle chose, ensuite telle et telle chose. Le roi, il a choisi comme une reine, Esther, ce qui n'est pas un miracle. Ça peut arriver qu'une fille juive, une fille qui, comme par hasard, elle était de la famille de Mordechai, elle va être choisie comme une reine parce qu'elle était la plus belle, etc. Ça peut arriver. Mais lorsqu'on met plusieurs notions naturelles ensemble, on remarque à ce moment le miracle de la chose. C'est pas possible que telle, exactement les choses étaient arrangées une après l'autre, pour que plus tard, on va être sauvé de la situation. Donc alors, la Megillat Esther, elle est là pour deux choses, puisqu'on vit dans un monde où, après l'histoire de Megillat Esther, c'est vrai que les peuples juifs, ils sont retournés il y a 2000 ans, 2500 ans, ils ont retourné dans leur terre, mais ça durait quand même quelques centaines d'années, et ensuite, ils ont été encore une fois exilés. Pas tous, il y avait toujours une présence juive, ce que les gens ne savent pas. Il y avait toujours une. Depuis Moshe, depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, il y avait toujours une présence juive, mais la majorité des juifs n'étaient pas là. Donc, alors, même le but de cette fête de Purim, c'est remarquer la présence de Dieu là où on a l'impression qu'il n'est pas là. Mais c'est un travail intellectuel, ou bien c'est un travail profond. Chercher là où on a l'impression qu'il n'est pas là. Et donc, c'est ça aussi le nom de Megillat Esther. Ça veut dire révéler ce qui est caché. Et ça, c'est pas seulement par rapport à ça, par rapport à tout ce qui nous arrive dans notre vie. Il y a des périodes où on a des miracles. Oh là là, ça, c'est pas possible. C'est sûr qu'on voit un miracle. Mais les miracles ne sont pas très courants. Aujourd'hui, on a plutôt des miracles qu'il faut les ensembler. Ça veut dire qu'il faut mettre plusieurs événements ensemble et à ce moment-là, on remarque que c'est un miracle parce que naturellement, ce n'est pas des miracles. Mais lorsque je remarque ma vie et je ressemble, j'ensemble beaucoup des événements qui m'est arrivé ces dernières années et je les mets ensemble, souvent je trouve ça comme un miracle. Comme dans l'histoire de la Megillah, il n'y avait pas de miracle. Il y avait des choses naturelles que chaque chose on peut expliquer. Mais lorsqu'on met tout en même temps, là on remarque les miracles. Donc alors c'est un miracle d'une autre sorte, c'est un miracle de fait, par le fait qu'on met les événements ensemble, on réfléchit et là à ce moment-là, on voit Dieu qui n'est pas visible, on le voit. Donc alors si on essaye de résumer, parce que malheureusement, j'ai prévu d'autres choses, mais on n'aura pas le temps. Alors, l'idée de Purim, c'est une fête tardive, pas seulement au niveau historique, mais aussi au niveau spirituel. C'est pas une fête comme celle de Pessah, que la manifestation divine était très importante, ou bien les autres fêtes, c'est une fête que tout était naturel, et pourtant, si on regarde bien, on trouve Dieu là où il n'est pas d'une façon visible, il est là. Et on peut faire le lien, puisqu'on a l'habitude de parler de la paracha. Donc dans notre paracha, on parle de mettre en service les Kohanim, donc les prêtres, Moshe, il les met en service. Ça veut dire que le temple, on a parlé déjà du temple. Maintenant, Dieu, il demande que le temple et les Kohanim, donc les prêtres, ils vont être en service. Et c'est Moshe qui fait le fonctionnement. Ça veut dire qu'il l'approche vers lui, comme il est marqué dans la Torah, et ensuite, donc, ils deviennent ce qu'ils deviennent. Alors, ce qui est intéressant aussi, que notre paracha, donc, c'est la seule paracha où on parle beaucoup de Moshe, et pourtant, son nom n'est pas là. Alors, il y a des différentes explications, mais parmi les explications, que parfois, l'absence et la présence d'une personne, ce n'est pas forcément par telle manifestation. Parfois, c'est l'absence qui nous fait révéler la présence la plus forte. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que je suis présent? Je suis présent parce que j'ai dit quelque chose, je suis présent parce que je fais quelque chose. Alors à ce moment-là, ma présence se limite à ce que je dis et à ce que je fais. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui est très très présent, mais les personnes autour de lui, ils ne comprennent pas sa présence. Alors à ce moment-là, parfois, par son absence, on va remarquer sa présence. Il y a une histoire que d'ailleurs on les lit souvent dans l'Haftarah, donc quand Rosh Chodesh, le début du mois, tombe le dimanche, alors à ce moment-là, on lit cette Haftarah, à la suite de la lecture de la Torah, on lit ça, et il y a une phrase comme ça, il y avait tout un conflit entre le roi Shaoul et le roi David, qui était son gendre, et c'était terrible, et à un moment donné, David ne savait pas quoi faire, et il a interrogé Yonatan, qui était le fils de Shaoul, son beau-frère, et en même temps c'était son ami intime, mais en même temps on ne savait pas comment Shaoul il voulait, le roi Shaoul, Saül, il voulait tuer David. Donc à un moment donné, il dit, Yonatan dit à David, demain c'est le jour de fête, donc le jour, pardon, du début du mois, normalement tu es toujours présent à la table du roi. Mais demain, on va te remarquer puisque ta place va manquer. Alors, c'est très simple. On va te remarquer par ton absence. Quand tu es là, alors tu es une personne parmi d'autres. Mais demain, puisque tu vas manquer, donc on va te remarquer par tes manques. Alors ça, c'est une histoire simple que c'est arrivé dans tel endroit. Mais la chassidoute, elle prend beaucoup plus loin. Elle voit, elle développe cette notion que parfois, le manque, c'est ça qui fait la présence. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais juste on va résumer par rapport à ça. L'idée de Purim, c'est la même idée. L'absence de Dieu, c'est pour révéler pas son existence, mais son présence. Il y a parfois, entre les parents et les enfants, que les parents ils donnent tout à leurs enfants, et l'enfant ne remarque rien. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as donné déjà? Il ne remarque pas. Il va remarquer l'absence des pères ou la mère, il va remarquer la présence par l'absence. Donc alors, quelque part, la fête de Purim, c'est ça un petit peu l'idée, c'est qu'il y a une notion de la fête de Purim représente quelque chose de manque, un grand manque, mais c'est ça qui incite la communauté, le peuple juif, d'être présent, de révéler en eux une force extraordinaire, et que grâce à ça, ils vont être beaucoup plus présents, donc au niveau spirituel, et ça aussi c'est grâce à Moshe de la génération, Moshe de notre génération, de toutes les générations, comme Mordechai, qui savait bien réagir dans ce moment d'absence pour révéler ce qui est caché, et la présence de nous-mêmes. Là où on n'était pas présent, on obéit à la présence de Dieu, là où il n'était pas présent. Et dans notre génération aussi, c'est ça qu'on nous demande. Le rabbi nous a enseigné comment voir là, au plus profond, là, lorsqu'il manque, voir ce qui révélait au moment de manque ce qui est caché. Et c'est ça qui amène, quand on arrive à travailler sur soi, de trouver, lorsqu'il manque, trouver ce que, trouver la présence qui est beaucoup plus présente, qu'on la remarque beaucoup plus lorsqu'elle est, elle est manquante. Ça, c'est le but de toute cette période d'exil et de problèmes, pour que chacun il révèle ses capacités qu'il va pas révéler lorsqu'il est dans une période normale. En tout cas, ça, c'est un petit peu l'idée de Pourim, qu'Hachem fasse que tous ces problèmes cessent et qu'on va avoir que la joie, que du bonheur, que des choses positives, et que tout ça nous a été promis avec la venue de Mashiach. Merci beaucoup pour votre attention et bonne fête de Pourim et à la semaine prochaine.
Fête et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.